Du son? Ok. Marche toujours, youpi. Screencast. Non, pas de mise à jour. On va refaire comme hier. 8. C'est parti. Est-ce que ça marche? Ça marche, youpi. Okay. Bonjour. C'est bon?
Ça tourne, attends,
tu commences quand tu veux. Ok. Je vais attendre que. C'est bon? Ok. Bon, mais bonjour à tous. Merci d'être venus. Juste avant de commencer, j'ai une ou deux petites questions pour jauger un peu le public. Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais fait de programmation? Ouf, il y a un larcin. Il y en a qui n'ont jamais programmé du tout? Non? C'est bien ça. Je comptais commencer par les bases, donc si tout le monde les a. Est-ce qu'il y en a... Pardon? Ah oui, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y en a donc qui n'ont jamais fait de Python? Ok, donc on va commencer par les bases. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà manipulé l'API de Blender, c'est-à-dire coder en Python dans Blender? Ok. Bon, le but un petit peu aujourd'hui, c'est de... Basiquement, c'est de faire un petit outil qui est vraiment un larcin impressionnant. Hop. Non, c'est pas celui-là. Je vais me le mettre là. Un petit outil très simple qui va vous permettre de renommer des objets à la chaîne. Bon, c'est un exemple qui peut être pratique quand vous avez une scène un peu brouillonne et qui a l'avantage d'être très simple. Qui vous fait voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'API de Blender et dans le code Python, pour voir comment ça marche. Donc je vous rassure, on va partir de zéro. Donc ne vous stressez pas, si vous avez zéro connaissance en Python, etc., on va partir de la base. Et donc le truc, c'est qu'on va faire ce petit outil, l'idéal ce serait d'y arriver à le faire sur la première heure, et les dernières demi-heures, ce sera un petit peu un temps libre, où on fera, j'ai plusieurs exemples de code, qu'on pourrait réaliser, donc par exemple faire l'interface de script, parce que pour l'instant on va le faire juste le code, un script de base sans interface. Donc sur la dernière demi-heure, si on a le temps, soit on fera l'interface, soit j'ai 2-3 exemples, selon ce que vous voudrez faire. Donc on va attaquer. Juste quelques petits détails pour s'organiser avant de coder dans Blender. Il y a une interface toute faite qui s'appelle donc le scripting, avec tout un tas de trucs. Donc on a un éditeur de texte qui va nous servir à rentrer nos codes et une console Python intégrée à Blender qui va nous servir pour nos tests. Et voilà. Et hop. Et donc, bon, un petit peu avant de commencer, je vais revenir sur quelques bases d'utilisation du Python. Bon, comme vous avez tous des connaissances en programmation, je ne vais pas vous refaire le cours sur les variables, les fonctions, etc. C'est bien, on va gagner du temps. Je vais simplifier, c'est-à-dire juste vous montrer comment on définit une variable, etc. Donc une variable, ça se... Hop, je vais y arriver à taper français. Ça se définit tout simplement par ma variable égale ce que vous voulez. Donc bon, un nombre. Pouf. Ou une chaîne de caractères, donc c'est entre soit entre apostrophes, soit entre guillemets, soit dans certains cas particuliers, on met trois guillemets ou trois apostrophes. Ça marche quand même. ouf. On peut aussi définir une liste, ça se fait entre crochets, et on met des éléments, donc n'importe lesquels, des nombres, etc. Donc si je remonte ma variable, ouf. Pour ceux qui connaissent aussi, on peut définir un dictionnaire. Ça se fait entre accolades et toujours avec un système de clés, de points et de valeurs. Par exemple comme ça, hop, j'ai mon dictionnaire. Ça va pour tout le monde ? Moi, si je vais trop vite, hein, plus de 7 paires de personnes, même si on n'a pas le temps de finir, c'est pas grave. Voilà, et pour une fonction, ça se définit, je vais juste le taper là pour que ce soit plus... Oh non, allez. Ça se définit donc avec def, le nom de la fonction, donc ma fonction. Intercollable de points et ce qu'on veut. Et le truc important à noter en Python, c'est qu'on a besoin d'indenter. Au lieu d'avoir, comme il y a dans pas mal d'autres langages, type C, JavaScript, etc., Java, des accolades pour chaque bloc, c'est-à-dire si on met une fonction ou un if, il faut mettre des accolades pour lui dire quelle est la partie de la condition, etc. Là, ça va être directement en indentant. C'est-à-dire ce que j'indente, ça veut dire que c'est ma fonction. Si je mettais une condition, donc if, n'importe quoi, un truc qui est vrai, ups, bêtise, pouf. Il le fait tout seul, mais il faut réindenter derrière. Donc, soit avec un tab, soit avec un espace, comme d'habitude. Donc, n'importe quoi. Et donc, si j'appelle ma fonction, voilà. Donc, on sait bien, ça allait vite du coup, à expliquer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va réaliser un petit code très simple, de base, qui va faire ça. C'est-à-dire qu'on va chercher un objet. On va faire ça pour tous les objets, on va tester, bon de base on va dire c'est un cube, je vais vous mettre un climber là, on va voir tout un tas de cubes, qu'on veut renommer à la chaîne sans avoir à le faire à la main, et disons qu'on va les renommer en boîte. Donc de base ça va donner ça, on va tester si il y a le nom cube, si notre objet s'appelle cube. Si c'est pas le cas, on passe à l'objet suivant. Et si c'est le cas, on va enlever ce parti cube et on va la remplacer par boîte. C'est un super exemple. Un cube qu'on va remplacer par boîte. Et bon, pour ça, il nous faut quelques petits trucs de base. Bon, dans l'API Blender, le truc important, quand on commence un code, on va importer cette API. Donc import BPY. Je vous préviens, j'ai un petit tic de langage. Je ne dis jamais BPY, je vais dire BPY tout le long. C'est BPY, hein. Posez pas de questions là-dessus. Donc bon, de base dans la console c'est déjà fait. Et pour récupérer un objet, donc par exemple l'objet courant, on a tout un tas de modules. Et donc les principaux qu'on va utiliser ce sera contexte. Donc, c'est pour des informations contextuelles, ce qu'on va utiliser pour l'objet juste après. Ops, c'est pour tout ce qui est opérateur, on verra ça ensuite. Hop, data, c'est pour accéder à toutes les données de notre scène, donc pas simplement l'objet contextuel, mais tous les objets. Et props, on verra ça aussi plus tard. Et donc pour récupérer l'objet courant, on va faire bpi.context.object. Bon, il y a une méthode, mais je fais ça le plus simple possible. Et donc si je tape ça, il me renvoie le bloc de données, le lien vers mon objet. Qu'on peut trouver aussi donc, en tapant cette commande-là, bpi.data.objects. Et ça, c'est comme une liste. C'est un type Blender particulier, mais ça ressemble à une liste. Et on va juste aller chercher, c'est la même chose. Et pour récupérer le nom de notre objet, puisque c'est ça qu'on va manipuler, on va avoir un attribut qui s'appelle name, qui nous renvoie le nom de l'objet. Bon, là, cube006, ce qui paraît logique, il s'appelle cube006. Puisque c'est le nom qu'on utilise, c'est en fait celui qui est utilisé là. C'est le même. Et ben c'est à peu près tout. Le truc dont on a besoin, je ne sais pas ce que vous connaissez vu que vous connaissez déjà la programmation, peut-être que c'est pas pareil dans d'autres langages, quand on a une chaîne de caractères, pour récupérer telle partie de la chaîne, donc on va dire que c'est ma chaîne, et puis on va y mettre cube. Et si je veux récupérer que le texte jusqu'à un certain niveau, Par exemple, que le B qui est en troisième position. Le truc, c'est qu'en informatique, vous allez le savoir, tout commence par zéro, tout le temps. Ce qui fait que ce qui est en troisième position, en pratique, comme on commence à zéro pour le C, ce sera la deuxième position. Donc c'est la troisième lettre, mais en fait la deuxième position. Et donc on y accède en mettant des crochets et en lui demandant le deuxième, du coup, caractère. Et si on veut accéder à tout un bout, par exemple entre le deuxième et le troisième, ce qui ne marche pas, pour accéder en fait à le deuxième et le troisième, le premier index, donc c'est celui avant votre lettre. Donc quand je mets 2, ce sera celui-là. Si je mettais 0, on va le faire avec 2 par exemple. Si je mets 0, c'est la première lettre, enfin le premier index il est là, et le deuxième il est là, c'est-à-dire AB, mon 2. Et il va couper ce qui est après, enfin à partir du 0 inclus, et jusqu'au 2 exclu. Donc le dernier, qui est mon B, il n'est pas pris dedans. Donc si je vais prendre le B, je mettrai 3, qui du coup, c'est bien la troisième position. Et on peut tricher, c'est-à-dire que si on veut tout à partir du troisième caractère, on lui met 2 points, on n'a pas besoin de mettre quelque chose à la fin. Et inversement, si on veut tout jusqu'au premier du coup, caractère, c'est le deuxième, je dis une bêtise. C'était ce que je disais juste avant, c'est le même inclus. Je me dis une bêtise. Si on veut récupérer celui-là, donc on met juste 2 et 2 points avant. Et bon, il y a d'autres manips, par exemple mettre le moins 1 pour avoir le dernier. Au lieu d'avoir à calculer, bon, le dernier c'est le troisième, enfin c'est le 3, on peut mettre juste moins 1. Donc c'est ça qu'on va utiliser tout de suite pour modifier notre nom. Donc on va faire une boucle. Tout le monde sait ce que c'est une boucle? C'est bon? Ok. Donc on va faire for obj in bpi.data.object. Donc je vais chercher dans mon module bpi, je vais chercher donc les données. Et les données, ça va être la liste des objets. Donc à chaque fois, je vais prendre un objet, puis l'objet suivant, etc. Et ce que je vais faire, donc, c'est je vais tester s'il y a le mot cube dans le nom de mon objet, c'est-à-dire obj.name. Déjà, on va faire ça plus simplement. On va juste, pour l'instant, afficher obj.name, voir ce que ça fait. Ça va être l'occasion de vous montrer que là, quand j'exécute mon script, en cliquant sur run script, où vous allez très vite faire Alt-P, parce que c'est long d'aller cliquer. Donc quand vous l'exécutez, il ne se passe rien. Alors que là, quand je mets un print n'importe quoi, il se passe quelque chose. C'est parce qu'en fait, ça c'est une console interactive qui vous affiche directement les retours dans la console. Et ce qui... Oups, je m'en mêle dans les fils. Et ce qui s'exécute dans le texte là, il va s'afficher dans la console de Blender. Alors quand vous êtes sous Windows, la console on peut l'activer dans le panneau Windows Toggle System Console. Et il m'a bien affiché mes noms. Ceux qui sont sur Mac, je ne sais pas comment on fait. Désolé. Et ceux qui sont sur Linux, en fait, il faut lancer Blender en ligne de commande. Et ça va vous afficher le texte dans la console que vous aurez lancé au début. Donc bon, ceux qui sont sur Linux, il faut rouvrir un Blender. Sauf si vous l'avez lancé en ligne de commande. Et pour ceux qui sont sous Windows, c'est juste ce petit bouton-là. Ceux sur Mac, je ne sais pas s'il y a ce bouton. Il y est celui-là? Vous l'avez dans Windows Non? Ça doit être en ligne de commande aussi. J'avoue que je ne peux pas aider, j'ai pas de Mac à la maison. Désolé, je suis pauvre. Et donc ça m'a bien affiché les noms de mes objets. D'ailleurs ça l'a fait deux fois. Ça m'apprendra. Oui, bon, on va laisser comme ça. Donc ça commence à caméra. Et donc voilà, j'ai les noms de tous mes objets. Et donc je vais tester. Hop, je reviens en arrière. Je vais tester s'il y a cube dans ce nom. Et s'il y a cube, eh bien, je vais changer le nom de mon objet. Donc je vais dire que obj.name, donc le nom de mon objet, égale. Et alors la bidouille qu'on va faire, c'est qu'on va retirer la partie qui correspond à cube. Donc on va faire, on va enlever tout ce qui est avant. Donc comme nos objets s'appellent cube sans rien, ça ne va rien enlever. Mais je vais en renommer un le cube. On va supprimer cette lampe, ça simplifiera. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'il enlève ce qu'il y a avant L et E. Et donc, on va récupérer... vous voyez, une fonction en Python, j'ai oublié d'en parler. Quand vous avez une chaîne de caractères, donc cube, vous pouvez en afficher la longueur. Donc la longueur, c'est len cube, et donc il y a 4 caractères. Et là, il les compte bien tous, il ne part pas de 0. Et donc, je vais prendre la longueur de mon cube. Oups, longueur de cube. Et je vais lui dire que donc ça, ce sera, il prendra à partir de cette longueur. Donc ce sera exclu, ce qui tombe bien, vu qu'on veut, on veut commencer après celui-là, c'est-à-dire pas les 4 premiers caractères. Donc on met à 4. D'ailleurs, ça doit être à 3. Je vais peut-être vous dire une bêtise. Je vais juste retester. bpi.context.object. Je vérifie juste un truc pour ne pas vous dire de bêtises. .object. J'ai tapé correctement. obj.name. Je viens de le définir. Bon, on va tester comme ça, et puis c'est une bêtise. On va corriger après. Bref, donc on va tester, donc on va enlever tout ce qu'il y a avant cube. On va rajouter, un peu la bidouille, on va rajouter boîte à la place, ou n'importe quoi. Et on va rajouter ce qu'il y avait après cube. C'est-à-dire qu'en fait, on va remplacer juste le morceau qui s'appelle cube. C'est un code qui peut poser des problèmes si vous voulez renommer que les objets qui commencent par cube, ou qui ont que cube et un index derrière. On ne va pas s'attaquer à ça. Pour l'instant, on va juste enlever la partie cube et la renommer par autre chose. Et donc, on va rajouter ce qu'il y a. On va couper tout ce qu'il y a avant le morceau cube, etc. pour ajouter juste ce qui est, la partie qui est après. Donc là, ça va être len cube. Et comme c'est inclus, ça va rester comme ça. Et c'est là qu'il doit y avoir moins 1. Juste corriger pour ne pas vous dire bêtises. On va tester. Youpi! Oui, c'est vrai. Merci. Donc c'est oui, il faut récupérer donc obj.name et la première partie. Merci. Hop, si je le lance, ça ne marche pas. Youpi, pourquoi ça ne marche pas? On va juste revenir en arrière. obj.name. Bon, on va faire des tests. Oups. Donc on va mettre des petits prints hein, pour tester si ça, tout ça c'est bon. Ouais, le print, pour ceux qui n'ont pas trop fait de programmation, ce qu'on appelle souvent des prints d'un debug, c'est la bonne astuce pour vérifier si votre code va bien marcher, ou vérifier si typiquement, là j'enlève le bon bout. Donc normalement, ce qu'il y a, si j'affiche dans la console le morceau avant, on voit bien qu'il y a une erreur, puisque il ne me prend pas la longueur qu'il faut, mais... D'ailleurs, oui, ok. Il prend un morceau trop grand, puisqu'il fallait prendre tout ce qu'il y avait avant. Ah oui, effectivement, je vous ai dit une bêtise, pardon. Il fallait pas prendre la longueur du cube, parce qu'en fait, on va couper là, ce qui n'est pas bon. Il faut récupérer son index. C'est-à-dire, à partir de quand j'ai une chaîne qui s'appelle ABCD, et que je veux récupérer l'index de A, non de B, par exemple, il va me dire que c'est le premier en partant de 0. C'est ça que je vais récupérer ici. C'est à partir de quand commence cube, pour enlever tout ce qu'il y a avant. Et donc, on va changer, ça va plus être ça, ça va être bj.name.index et entre parenthèses, cube. Si je l'affiche, 0, 0, c'est bon, et 2. Hop là. Si je fais ça, déjà ça devrait mieux se passer. Il y a une erreur. Youpi. Ah. J'ai encore fait une bêtise. En fait, là, je récupère juste l'index, donc c'est une valeur. Et pas, j'ai pas coupé mon nom. Donc je vais aller le récupérer, remettre mes deux crochets pour récupérer les index, enfin, pour découper ma chaîne, et je vais prendre. Je vais supprimer tout ce qui est avant. Donc, je prends ce qui est à partir de la suite. Et là, Cube, c'est toujours pas bon. Donc on va retester. C'est un cours de code où il y a plein d'erreurs. C'est du Python 3, j'ai oublié de le préciser. Blender marche qu'avec du Python 3 depuis, certainement depuis la 2.5. Avant, je sais plus. Je pense que c'était Python 2. Là, c'est du Python 3, donc oui, la principale différence, c'est qu'il y a des parenthèses pour les prints. Donc on va retester, toujours avec les prints. Donc ça, c'était bon. Oups, j'ai fait une bêtise. Donc on va retester si ça c'est bon. C'est bête, on avait gagné du temps, parce que vous n'étiez pas débutant, et en fait on va en perdre. C'est le gars qui fait l'atelier qui est débutant. Tout marche, mais... Ah, j'ai pas mis mon print. C'est pas bon, parce qu'il prend aussi le 0001 et l'index n'a pas marché. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a avant, oui, non, ça c'est bon, c'est la fin qui ne marche pas. Donc ça c'est bon. Je vais récupérer la fin. Oups. Non, là c'est pas... non, normalement c'est... Si, c'est l'index oui, qu'il faut rajouter. En partie. Je vais juste le tester pour voir. QQQ, c'est, ouais, c'est sur celui-là que ça ne marche pas. Juste pour le dernier, où il faut effectivement rajouter l'index, vu que je ne prends pas juste la taille de mon cube. Oups. Mais là, je rajoute l'index qui est devant. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc si je le rajoute, je reprends cet index-là, et je le rajoute devant. Et là, magie, ça marche. Et donc normalement, le code est fonctionnel. Hop, je reprends tout ça. Oups, je vais y arriver. Et si je fais ça, on va juste retester que je ne refasse pas encore une bêtise. Ce que ça donne dans mon print. Ça marche toujours pas. C'est rassurant. Parce que là, qu'est-ce qu'il nous donne ? C'est la fin qui doit déconner. Normalement. Oui, oui, j'ai encore fait une bêtise. C'est qu'il faut découper. Normalement, on rajoute l'index, mais il faut prendre la longueur. Qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Et ça, c'est censé pas. Oui, non, mais là, normalement, ça, c'est la partie du début. Et normalement, je dois prendre la fin. Ah, c'est mes deux points. Ils sont mal placés. Oups, j'ai viré. Voilà. En fait, j'avais fait deux fois la même manip au début et à la fin. C'était pas hyper utile. Hop, m'accrocher. Encore une erreur. Ah, il y en a une de trop. Et là, normalement, quand j'ai exécuté ça... Ah oui, mais il a fait une erreur au coup d'avant. On va revenir en arrière. Avec le bon code. Ça marche toujours pas. On va y arriver. Au bout d'une heure et demie, on devrait y arriver. Donc c'est ça qui est toujours mauvais. Ça marche pas. On va faire une heure et demie sur les prints de debug. Invalide syntaxe. Ah, j'ai encore recopié le mauvais code. Ouais, parce que le truc à savoir, c'est que quand vous exécutez votre code et que vous faites CTRL Z derrière, ça revient en arrière, mais ça supprime aussi les modifs sur le code. Donc il faut le copier. Parce que ça peut être embêtant quand vous codez tout un gros truc et vous le testez, puis ah, ça n'a pas bien marché, vous voulez revenir en arrière, vous perdez tout le code. Oups. Hop, et donc oui, c'est ça qui déconne. Apparemment, c'est ce qu'il y a avant boîte qui va pas. Où ça ? La position même.
Dex. Même Dex nous renvoie là.
Au début, tu dois enlever ce
qu'il
y a. Il faut enlever le mot cube.
C'est vrai. Je l'ai oublié. Ah non, c'est ce qu'il y a. Oui, non, c'est mes deux points qui sont à l'envers. Hein. C'est bien, en fait. C'est... Vous voulez pas faire le truc à ma place? Ça marche toujours pas. Je les ai pas bougés là. Ça marche. Wouhou. On est content. Voilà. Non, normalement, ma manip a bien été faite. Bon, du coup, est-ce que vous avez réussi à suivre les 18 000 retours en arrière?
C'est possible de décomposer la ligne en chaque étape pour faire.
Oui, oui. Il faut le dire, hein, s'il y en a un qui ne suivent pas, le but, c'est vraiment pas de vous perdre. Oui, ce qu'on a tendance à faire, c'est à réduire le code en termes de longueur le plus possible. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça ligne par ligne. Si je fais ça déjà, ce bout de code-là, il va me supprimer tout ce qui est après, après cube. Bon, là, je vais recopier, reviens en arrière. Hop. Donc tout ça, ça supprime tout ce qui est après cube. Donc si je l'exécute... Bon, quand je ne lui mets pas de nom, il me met par défaut Untitled, mais en gros, j'avais plus rien. Juste le 001, etc. Hop. Donc, ça, c'était pour mon premier bout. Je vais y rajouter boîte, derrière. Donc, obj.name. Donc, pour rajouter, en Python, on a deux façons de faire. Soit c'est, on met égal mon truc de base, name, oups, plus... ce qu'on veut rajouter, boîte, hop. Je précise, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça s'appelle une concaténation, c'est-à-dire quand j'ai deux chaînes de caractères, ups, quand j'ai ABC que je veux y rajouter DE, super exemple, DE, je mets un plus entre les deux et il me les colle. Ça s'appelle une concaténation, c'est le terme un peu savant que vous risquez de retrouver sur le net. Donc je vais y rajouter boîte, donc si je recopie, exécute, oui, comme à la première manip, j'avais rien, il me l'a renommé Untitled, je vais y arriver à le prononcer, bon, non nommé, quelque sorte, donc, et après il a rajouté boîte, c'est pour ça qu'on va être obligé de le faire sur une seule ligne, pour ce petit bout, hop, et donc on va le refaire sur une seule ligne, ah, je reviens juste sur mon exemple de tout à l'heure, pour rajouter simplement sans avoir à remarquer la variable de départ, on met juste un plus égal, c'est-à-dire ajoute-moi ce que je mets derrière. Donc on va revenir là et juste remettre notre plus. Et pour le dernier bout, obj.name égal plus égal notre dernier bout qui va rajouter tout ce qu'il y a après la fin, donc à partir du point. Et si je dis pas de bêtises, ça va marcher. Il y a une erreur.
Tu as déjà modifié l'objet.name, du coup tu ne pourras pas récupérer la fin, tu as déjà perdu.
C'est vrai. Donc il faut tout faire sur une ligne. Parce qu'à la base, je l'avais fait sur une ligne. Bon, est-ce que tu as compris comment ça se passait? Ok. Donc youpi, on a un petit code qui marche. On va tester quand même. On est un peu parano, on va faire nos François Grassard. On va devenir parano. Donc ça marche. Maintenant, on va faire en sorte qu'il soit un peu plus polyvalent. Parce que là, si je veux un autre objet, ou si je veux inverser cube et boîte, il faut le modifier là, il faut le modifier là, il faut le modifier là. C'est long. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer nos cubes et nos boîtes par un mot de base non source. Et pour boîte, ce sera nouveau nom. Comme ça, on aura une variable qu'on va changer à chaque fois. Et qu'on pourra faire changer par l'utilisateur dans l'interface pour avoir ça tout automatisé sans avoir besoin de modifier le code. Ce que les utilisateurs ne veulent pas faire. Pratique, préférer avoir des boutons dans l'interface, rentrer pour changer le nom, préférer aller le faire là que dans un code. Ce qui paraît logique. Donc on va remplacer cube par non source. Donc on va créer une variable non source, source. Et on va dire que c'est cube. Et nouveau nom, Hop, égal, boîte. Youpi. Et donc on va remplacer ça par non source. Donc à chaque fois je vais tester donc s'il y a mon source qui sera cube et qu'on pourra changer par l'interface, etc. On va le faire là aussi. Là aussi. Et là aussi. Donc, je remplace tous mes cubes par non source. Et je vais mettre un nouveau nom à la place de boîte. Et si tout se passe bien, ça marche toujours. C'est bon ? Tout le monde a suivi ? Pas de réponse ? Vous dormez ?
Une petite question. Quand on débug, quand on développe comme ça, imaginons qu'un bout de code s'exécute, les noms se changent sur les objets. Et quand on le réexécute, est-ce que les noms, comme les noms ont déjà été changés, comment ça se passe en fait ?
Dans ce cas-là, ça ne va pas se changer puisque tu testes toujours s'il y a cube dedans et il n'y a plus cube dedans. Donc si je le réexécute, ça n'a rien fait.
Parce que c'est changé une fois pour toutes.
Voilà.
Donc,
et ce qu'on. Non, et ce qu'on fera tout à l'heure pour l'inter. C'est pas celui-là. C'est. Celui qui est là. Pas pourquoi je l'ai rangé là d'ailleurs. Ce qu'on fera, c'est qu'on aura un petit machin qui nous permettra d'échanger les deux. Ce qui évite d'avoir. Si tu veux revenir à. Si tu avais boîte. Si tu avais cube et boîte, si tu veux refaire ta manip à l'envers pour éviter d'avoir à faire les CTRL Z ou quand tu es utilisateur pour annuler ce que tu viens de faire, tu peux le faire avec un petit bouton qu'on va rajouter. Hop. Ce qui est bien, c'est qu'on allait super vite. Je n'ai rien à expliquer niveau programmation. On va pouvoir aller très loin derrière. S'il y en a qui veulent manipuler l'interface. donc voilà, j'ai changé, ça marche toujours. Tout le monde a suivi ? Oui. Oui. Oui, parce que quand je teste if quelque chose, donc AB in ABC, print true, true. Il me l'affiche parce que ce qu'il va tester, c'est est-ce que tu as tout ça là-dedans, dans le même ordre. C'est bon ? Là, pardon ? La case, oui. Et oui, il respecte la case. Là, c'est une petite bidouille. C'est-à-dire, quand tu as une chaîne de caractères avec A, B, C, et que tu veux tout prendre en minuscule, parce qu'en fait, ce qu'on va tester, c'est est-ce que pour respecter le. Enfin là, pardon, il respecte la case dans ce cas-là. C'est bien ce que je t'ai dit Oui. Si tu veux qu'il ne la respecte pas, d'accord. Si tu veux qu'il ne la respecte pas, en fait, tu vas convertir ton texte en minuscule ou en majuscule. Et tu vas tester ton texte en minuscule. C'est ce qui, pour moi, est le plus simple. Tu pourrais tester si tu as AB en majuscule, si tu as AB en minuscule, si tu as 1A en majuscule, mais quand tu as un texte très long, c'est pas très pratique. C'est pas hyper élégant niveau code. Donc en fait, tu as une fonction de base qui s'appelle upper pour te renvoyer ton texte en majuscule. Et celle en minuscule, je me souviens plus du nom. C'est. Pardon ? Lower, je crois, ouais. C'est ça. J'oublie la moitié du temps, la moitié des fonctions. Et ce qu'on verra, c'est que Blender, quand on oublie justement où aller chercher notre objet, je peux le montrer tout de suite. Si je fais ppi.context et que je cherchais tout ce qu'il y a derrière. Il y a une fonction dite d'autocomplétion, autocomplete ou contrôle espace, où j'ai tout ce que je peux aller chercher derrière. Donc par exemple, si je veux mon objet courant, je vois, je suis à contexte, donc object, qui est à haut. Hop, je l'ai là.
Par contre, comment tu bascules en plein écran
Tu as plusieurs raccourcis, contrôle flèche du haut, flèche du bas, ça marche aussi, shift espace, ça doit marcher dans. Ça marche pas. Il y a un truc avec espace. Bon, je fais contrôler les flèches. J'ai cru voir une main se lever. Il y avait une question ? Oui ? Vas-y. Oui. Ok. Oui. Pardon. Oui, un petit truc que je vais montrer juste. Quand vous avez comme ça une fenêtre trop courte et que vous voulez continuer à éditer votre code, il y a une petite option. Oui, d'ailleurs, j'avais activé. Il y a ces deux options quand vous éditez du texte pour colorer votre texte, comme on en a à peu près n'importe quelle ligne de texte pour faire du code, et une option pour afficher les numéros de ligne que vous activerez tout le temps. Et il y a une option wrap qui permet d'enrouler, en quelque sorte, votre texte, c'est-à-dire qu'il va le remettre à la ligne quand il arrive au bout. Ce qui est pratique quand on a un petit écran est très perturbant parce qu'en Python, quand on travaille avec des indentations, on peut avoir l'impression que c'est une nouvelle ligne et qu'elle n'est pas indentée. Donc vous allez mettre une indentation qu'on ne va pas voir. Quand je reviens, il me l'a mise. Il faut y faire gaffe. En pratique, je préfère passer en plein écran. Mais bon, faites comme vous voulez. Je te le remets, pardon. Faire comme ça. Oups. Faire comme ça, c'est même encore mieux. C'est bon pour tout le monde ? Je laisse finir. C'est pas des noms de variables dans ce cas-là, c'est le nom de ton nom. Oui, je vais reposer la question. Donc la question c'était quel est l'intérêt dans le cadre de ce code de modifier des noms de variables. Et donc c'est pas des variables. Les variables elles me servent à tester les noms, pour avoir des noms automatisés et on va les changer après pour pouvoir les modifier dans l'interface. Ce qu'on change c'est le nom de notre objet. Alors là c'était pour faire un code simple qui est quand même utilisable pour modifier la chaîne des noms de vos objets, mais on peut le faire avec n'importe quoi. C'était pour faire les bases, on va dire, termes de code, pour rester simple. J'ai fait ce petit code-là. Mais on va voir des trucs plus compliqués, tu peux aller.
Ça veut dire que l'utilisation de ce genre de code, c'est parce que quand on crée plein d'objets, on n'a pas envie de s'embêter à les renommer à la main. Donc on va faire un code qui va automatiquement remodifier les objets que vous montrez.
Voilà, et surtout quand tu as à le faire soit plein de fois, soit le refaire plusieurs fois, c'est très pratique d'avoir du code. Et ça peut s'appliquer à peu près n'importe quel exemple. Ce que je montrais hier dans la conférence, qui n'est pas là, qui hop, conf, hop. Quand tu fais par exemple un visualiseur audio, que je coupe le son, et que tu veux générer en fonction de partie de ta longueur d'onde, c'est-à-dire là ça va être les graves, et là ça va être la partie la plus grave et c'est la partie la plus aiguë. Et tu veux faire des petites bandes de fréquences qui décompose ton spectre pour faire comme un equalizer, ce qu'on appelle un visualiseur audio. Et tu veux faire ça avec un nombre de cubes que tu choisis, sous une forme, dans ce cas-là, la spirale que tu choisis, mais tu peux le faire en ligne. J'en ai un juste à côté, juste là, voilà, que j'ai fait sous forme d'une sorte de tableau. C'est juste des cubes, donc dont je change la taille. Et tout ça, je le génère en Python. Je pourrais le faire à la main, mais si je veux faire une modif et rajouter enlever une ligne ici et les rajouter là, à la main, c'est long. Il faut tout refaire parce qu'il faut tout rechanger sur ta plage de fréquence, celui qui est là par exemple, quand tu vas en rajouter, ta plage elle va diminuer. Tu la découpes en fonction du nombre de cubes pour pas avoir de morceaux qui s'entrecroisent. C'est-à-dire si ça c'est de 0 Hz à 20 Hz, je dis les valeurs au hasard, que la suivante c'est de 20 à 40, etc. et que tu rajoutes un cube, tu vas diminuer un peu ta plage. Tu ne veux pas qu'elle se recoupe. Donc il faut refaire la manip sur chacun des objets. C'est super long. Alors qu'en Python, je vais juste changer le nombre de colonnes et de lignes. Et c'est tout.
On peut voir le nombre des cubes qui sont listés ici ?
Là, c'est que des cubes. En fait, j'ai créé un cube que j'ai dupliqué, etc. Ce qui fait qu'il y a du 0, 0, 1, etc. Je ne vais pas donner de nom précis. Et je génère tous ces codes-là, je change leur taille, je fais quelques modifs, et après j'applique une action que c'est quand tu es dans l'éditeur de graphes, qui est là. Tu as une option pour faire un bake soon. Faut que je le sélectionne peut-être. Non. Bake. Sound, je suis en F-curve. Voilà. Il y a normalement un truc avec Sound, je ne sais plus comment on le retrouve. C'est un peu bizarre. Bon, je ne sais plus où elle est. Mais tu as une option pour faire à partir d'une musique générer comme des clés d'animation. Sauf que bon, il n'y a pas de clé, mais il va lui-même déformer ta courbe comme ça, en fonction de la musique. Et à la main, bah, tu vas faire la manip, tu vas sélectionner un autre cube, le repositionner, le renommer si tu veux, refaire la manip, etc., etc. Et quand il faut la refaire, c'est super long. Et en Python, ça peut se refaire très rapidement. C'est la même logique en un poil plus complexe que ce code-là. Et ça, c'est, enfin, c'est un exemple de base pour vous illustrer ce qu'on, la manière dont ça marche. Mais on peut complexifier avec d'autres exemples. Hein. Tu peux faire ça avec, tu peux bouger des vertex sur plein d'objets, tu peux changer, mettre un matériau sur plein d'objets avec des modifs en fonction de l'objet, par exemple. Tout ça, tu peux le faire en Python. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer une mini-interface, puisqu'on a un peu de temps, pour ce script. Donc pour l'interface, en Python, donc on peut définir des panels, donc ces, petites, ces petits machins-là. On peut aller créer nos propres... je sais plus comment ça s'appelle, nos propres onglets, ça y est. On peut aller créer... créer nos propres menus, style celui-ci ou celui-ci. On peut créer à peu près... Enfin, tout ce qui est dans l'interface, ou presque, peut être créé en Python. On peut aller faire une liste comme ça, etc., etc. Et ce qu'on va faire, c'est, comme sur le code que j'ai... conf, il est là. On va faire, donc on va créer un nouvel onglet où on va pouvoir, ça on le fera après, non on va le faire tout de suite, pardon. On va pouvoir dire si c'est un objet ou un mesh et retoucher à peu près tout et n'importe quoi. Et donc nos deux noms de base et on va les renommer. Ce qu'on va faire tout de suite. Donc juste pour parler des objets... objet, mesh, etc. C'est très facile d'adapter ce code pour modifier le nom du mesh, le nom du matériau, etc. Parce que quand on va dans bpi.data, on a un truc qui s'appelle objects pour avoir la liste des objets, mais on a aussi la liste des matériaux, des masques, des meshes, etc. Et donc, si on veut des meshes, donc c'est meshes, si je l'écris bien. Hop, bon, ça c'est l'objet Blender, le type. Et donc on a des mèches là, et donc on pourrait prendre le premier et demander quel est son nom. Oups. Bon, c'est cube. Donc c'est celui qui est là, ce mèche là. Et donc pour ça, il y aura juste à changer là, à mettre mesh, cheese, à mettre materials, à mettre scene, pour changer ce qu'on veut. Donc pour l'instant, on va rester sur object. Ce qu'on va faire, c'est que pour l'interface, ben déjà dans Blender, on a tout un tas de templates, c'est-à-dire de codes, d'exemples, tout fait. On en a un bon paquet, je sais plus combien il y en a, 20, peut-être 30. Et on en a un qui s'appelle, enfin on en a une liste sur l'UI, c'est-à-dire pour créer un panel, un menu, une liste. Et nous, ce qu'on veut faire, un petit menu aussi, il est caché. Et ce qu'on va prendre, c'est le UI panel simple, c'est-à-dire un code simple, le plus basique possible pour vous montrer comment ça marche. Donc on va le sélectionner. Pouf, ça fait un gros machin tout plein de codes et d'expressions bizarres. Et ce code-là, si je l'exécute, il va aller se mettre dans les trucs d'objets. Hop, il est là. Ce truc-là n'y était pas juste avant. Et donc avec, bon, une propriété comme on veut, là, avec ça c'est le nom de notre objet normalement. Enfin, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle boîte. Je vais renommer en boîte, c'est ça. Ça doit être le nom de l'objet. Ça. Donc un opérateur. Donc un opérateur, c'est tout ce que vous pouvez utiliser, du genre quand vous faites E pour extruder ou Shift D pour dupliquer, G pour bouger. Tout ça, c'est ce qu'on appelle un opérateur. En gros, c'est un outil, pour faire simple. On a du texte, on a une propriété qui est le nom de l'objet, et on a une icône. Alors tout ça, ça se retrouve ici. Alors ce gros machin qui fait un peu peur, en fait, un opérateur, c'est une classe. Une classe qui... Vous connaissez tous le concept de classe? Oui? Parfait. C'est bien, on a un public averti aujourd'hui. Donc ça va être une classe qui va hériter de la classe panel de base, donc qui contient toutes les fonctions pour créer, pour dessiner le panneau, etc. Donc bon, on aura le nom de la classe, donc ça c'est le toutip. Toutip, je ne sais pas comment ça marche sur les autres langages, mais c'est un petit truc d'astuce, quand vous allez taper help Help n'importe quoi, si c'est la fonction len, il va vous afficher. Donc le petit tooltip, c'est ce qu'il y a là-dedans. Donc il va vous expliquer qu'est-ce que ça fait. Et il y aura tout un tas d'infos quand c'est une classe, toutes les fonctions, etc. Voilà. Hop. Donc ça, je vais l'expliquer après. Et donc pour un panel, on a une fonction qui est obligatoire, qui s'appelle draw, qui va définir qu'est-ce qu'on dessine sur l'interface. Donc quel bouton on rajoute, quel texte on met, etc. Donc elle prend deux paramètres, donc self, donc l'instance. Tout le monde voit ce que c'est ? Oui ? C'est génial ! Et le contexte. Le contexte, en fait, le contexte c'est ça, c'est bpi.contexte. Ça va lui permettre d'accéder aux objets courants, etc. Et ça c'est obligatoire aussi. Et bon, je passe sur ça, je vais l'expliquer après. Et donc, il y a un fonctionnement assez spécial dans Blender qui fait qu'il faut enregistrer notre classe quand on l'a définie. Il faut l'enregistrer dans le système de Blender, sinon elle n'est pas disponible. Elle est peut-être définie dans notre code, mais elle marche que dans notre code. Donc pour ça, il faut une fonction register. Elle n'est pas obligatoire, mais quand on fait un add-on, elle est obligatoire. C'est ça qu'il appellera quand il va l'installer. Il va enregistrer toutes les fonctions. Donc on va la garder. Et dedans, on utilise un outil Blender qui permet d'enregistrer la classe. Donc c'est bpi.utils.registerClass et le nom de notre classe. Et de la même façon, on aura une classe unregister pour au moment de la désinstallation de l'addon ou du script. On supprimera cette classe de la mémoire de Blender. Et ça, c'est une petite bidouille en Python qui n'est pas obligatoire dans ce cas-là, qui permet de tester si c'est un fichier qui a été importé ou si c'est un fichier qui s'exécute comme ça. Et donc ça permet de l'enregistrer quand je l'exécute dans mon code, mais quand je l'importe comme un module dans mon add-on, quand je fais ça, il ne l'exécute pas tout de suite. Il attend qu'il y ait tout, ça évite pas mal de problèmes. Tout le monde suit jusque-là ? Module et autres, ça va ? Parfait.
Ouais, c'est plutôt l'interface de Python que j'ai un problème. Donc il le crée apparemment le panneau dans la partie Object Properties.
Oui.
Est-ce qu'on la retrouve cette partie-là ?
C'est celle-là, ouais. Donc les properties, c'est ce que j'allais expliquer là. Les properties, c'est où est-ce que je le mets. Donc là, ça va être dans les properties, justement. Et dans ce cas-là, ça va être dans la partie object. Et donc object, c'est celle-là. D'ailleurs, si je mets la souris dessus, je crois qu'il le dit. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est mon label. Donc ça va être le nom de notre panneau. Donc label, bon, étiquette en français, donc voilà, c'est le nom. Ça, c'est un petit truc qui va servir à Blender. Donc là, bon, c'est il est nommé d'une certaine façon, c'est un code, une façon de nommer les objets qu'ont défini les développeurs. On peut le nommer n'importe comment, ou presque. Ça, c'est juste une référence pour Blender, pour dire quand je vais appeler cet outil-là, je vais utiliser ce nom-là. Qu'on pourra nommer un petit peu comme on veut. Et ça, c'est bon, spécifique là, pour lui dire qu'on va dans les properties, que bon, c'est sur la partie window et non pas header. Header, c'est cette partie-là. C'est l'entête. Et dans les objets. On peut avoir la même chose si je prends l'exemple qui est panel. Ah oui, celui-là, il va aussi. Si je prends. Est-ce qu'on peut lui faire afficher ? Eh bien. On peut lui faire afficher là, on peut lui faire afficher là. Il suffit de changer quelques paramètres ici, ce que je vais montrer juste après. Et donc pour dessiner, qu'est-ce qu'on a dedans ? Donc l'objet de base, ça va être le layout. Le layout, c'est notre fenêtre de dessin, une sorte de canevas, pour ceux qui ont fait un peu de dessin ou 3D d'ailleurs. Et donc, bon, là c'est juste un raccourci qu'on utilise à chaque fois, c'est-à-dire que c'est le layout de l'instance. C'est-à-dire pas de tous nos panneaux, mais juste de celui-là, si j'en ai plusieurs. Donc on définit souvent layout pour aller plus vite, on pourrait même l'appeler LT ou n'importe quoi. C'est juste pour aller plus vite. Vous me le dites hein, si jamais ça ne suit pas. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Donc bon, il prend l'objet courant, il va définir une ligne. Je vais revenir sur ça en détail. Une ligne, sur cette ligne, il va afficher le texte et le world. Il va définir une deuxième ligne, il va afficher l'objet courant et c'est le nom de notre objet, la même manip que tout à l'heure, je prends le context.object et je lui dis que c'est obj.name pour trouver le nom, voilà la boîte. Et en dessous, j'affiche une propriété, property en anglais ou en plus court propre, donc qui sera celle de l'objet qu'on appellera name. Donc c'est obj.name, la même. Donc une troisième ligne, et là il affiche un opérateur. Donc ça c'est le petit code qui est là, en fait c'est celui-là. Sauf que c'est pour l'opérateur, et dans l'opérateur ils l'ont défini comme ceci. Mais c'est ce qu'on appelle le blidName, qui est un truc qu'il faut mettre à chaque fois. Donc comment ça marche? Si je supprime tout ça, juste me le garder, hop. Et je supprime ça aussi. Et si je veux afficher un label, donc je fais layout.fonctionLabel, et mon label ça va être du texte, donc et j'ai du texte. J'ai exécuté entre temps. Voilà, ça c'était pour le texte. On peut aussi afficher une icône, ce que je montrerai après. Pour afficher une propriété, donc on va aller chercher notre, par exemple la propriété name, comme tout à l'heure, context.object. Donc il faut aller chercher donc notre objet, ce sera context.object, et après on lui met le nom de la propriété, qui sera name. Puisque ça ne marche pas en mettant context.object.name, puisque ça lui renverrait, si je faisais comme ça, si je faisais comme ça, api.context.object.name, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, ça nous renvoie le nom. Donc en fait, l'objet que j'irais chercher, ou la propriété que je voudrais, elle me renverrait le nom de l'objet. C'est pas ce qu'on veut. Donc ça marche de cette façon-là, dans notre objet, et le nom de la propriété, donc en chaîne de caractères. Et pouf! On a notre objet boîte. Enfin, le nom de notre objet boîte, et si je remets cube, ça modifie bien. C'est bien ma propriété. Hop là. Et pour un opérateur, c'est bon? Tout le monde a suivi? Là, c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin de le coder. C'est juste pour vous montrer les principes. On va coder un truc après. Et pour afficher un opérateur, donc on écrit opérateur. Et on va aller chercher donc son blidName, qu'il faut soit connaître, soit aller chercher. Donc un exemple, où est-ce qu'il y en a un? Voilà, add to group. Donc si je vais sur un opérateur, donc un bouton par exemple, j'ai une petite option dans le tooltip, là, dans la petite astuce. Je ne peux pas vous le montrer avec la souris parce que si je bouge, pouf, ça se part. En bas, il y a marqué Python, bpi.ops, etc. Ça, c'est la commande pour lancer cet opérateur, qui est marqué à chaque fois. Si vous ne l'avez pas activé, c'est que vous avez désactivé les Python tooltips, qui font que si je désactive, vous voyez, là, j'ai plus activé l'astuce Python. Si je reviens, là, je l'ai. Donc, si je veux utiliser celui-là, soit je retape cette commande, ce qui peut être embêtant, soit il y a deux méthodes, ce qui ne marche pas sur les opérateurs, il n'y a qu'une méthode, pardon. C'est, je clique là, sur Add to Group, et en fait, en haut, par défaut, vous avez sur votre interface le petit panneau info. Et en fait, si vous le changez sa taille, vous allez voir qu'il y a des choses qui apparaissent en dessous. Et ça, c'est l'historique de presque toutes les manips que vous avez faites. Je dis presque parce qu'il y a quelques cas particuliers. Et qui vous met qu'est-ce que vous avez fait avant, quel opérateur vous avez utilisé. Et là, par exemple, je viens d'utiliser celui-là. C'est bien le bon. C'est pas le bon parce qu'il faut que je le supprime. Group link. Pourquoi il m'affiche pas le bon? Bon. Bizarre. Il est censé m'afficher le bon. Bref. Et donc, c'était cet opérateur-là. Donc, je peux aller ici, le sélectionner, toujours avec clic droit, faire un CTRL-C. Oups. Et venir le rajouter. Et donc la petite subtilité, c'est qu'il n'y a pas besoin de lui rajouter bpi.ops, puisque ça, c'est pour aller chercher un opérateur. Tous les opérateurs sont référencés dans bpi.ops. Si je vais chercher ce qu'il y a derrière, il y a toute une catégorie d'opérateurs qui sont là. Donc quand je lui dis un opérateur, en fait, il va directement aller chercher l'opérateur qui est là-dedans, sans avoir besoin de taper ça. Donc je l'enlève. Et là, j'ai fait une bêtise. Hop, c'est mieux. Et là, hop, j'ai retrouvé mon opérateur, qui est exactement le même, add to group, et normalement il est marqué group add. Et là, il y a toujours ce problème. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être un bug. Voilà, ça c'était pour l'opérateur. Maintenant, si on veut faire des lignes et des colonnes, parce que là, si je mets un deuxième layout à la suite, allez, ups, un autre truc qui dépend du layout, il va l'afficher à la suite. Mais peut-être que je veux faire mettre les deux boutons côte à côte sur la même colonne. Pour ça, on va définir colonne, qui sera notre layout, point, et la fonction c'est columne. Je ne sais jamais l'écrire, j'espère que je ne me suis pas trompé. Ça, ça va être une colonne, une instance de colonne pour Blender. Et donc, je vais dire que je dessine tout ça, non pas dans le layout, mais dans la colonne. Et là, si je le fais, c'est pas une colonne, pardon, c'est une ligne. Ce que je voulais vous montrer. Excusez-moi. Donc, c'est row pour ligne. On va mettre row. Vous pouvez l'appeler n'importe comment. Hein. Si je l'appelle ligne, c'est pareil. Hein. Hop là. J'ai mes deux boutons côte à côte. Si je voulais faire une colonne ce coup-ci, donc par exemple une colonne dans la ligne, ce qui est un peu bizarre, je vais lui dire, d'ailleurs c'est juste avant, si je reviens à mon layout et que je raffiche mon opérateur par exemple, layout, hein, je dis bien layout mais pas, et pas ligne, et que j'exécute, celui-là il est revenu à la ligne. On est sorti de ma ligne et on dessine après. Et si maintenant je veux faire une colonne, donc je vais dire que ligne, que colonne plutôt, égale, je vais y arriver, ligne.columne, donc colonne en anglais. Ce que j'ai défini une colonne dans ma ligne. Et c'est une colonne qui est après, après tout ça. Et donc si je rajoute un truc maintenant avec marqué colonne, de base ça fait pas grand chose vu que j'ai qu'un seul truc dedans, mais en fait elle est là ma colonne. Donc si j'en rajoute un deuxième, oups, hop, j'ai deux boutons à la suite. C'est bon? Tout le monde suit? Ok. C'est bien, tout le monde dort. Au moins, vous suivez bien. voilà pour les colonnes, les lignes. Il y a quelques petits trucs après un peu spéciaux. Si je veux afficher une boîte, ça va s'utiliser comme ceci. Ça va non pas être row, mais box. Boîte en anglais. Et là, je vais mettre bon, les boîtes. Boîte. Et là, vous voyez qu'il m'a fait un petit contour autour. Et si je rajoute une deuxième ligne, hop, j'ai une boîte autour de mes boutons. Ça peut être pas mal pour faire ce genre d'effet, où j'ai tout un tas de paramètres qui sont liés ensemble et que je vais pouvoir afficher ou cacher dans une boîte. C'est pas mal pour améliorer la lisibilité. Il y a aussi le split. Oups, je ne vais pas faire comme ça. Le split, c'est une sorte de colonne, mais modifiée. Alors qu'au lieu de couper ma colonne, enfin mon layout en deux pour faire deux colonnes, je vais pouvoir, au milieu, je vais pouvoir lui dire de couper au début ou à la fin. Ce qui peut être pas mal si vous avez un champ de texte énorme à rentrer, ou enfin vous voulez rentrer un gros texte, et à côté un tout petit nom pour dire rentrer un texte, enfin name égale et vous voulez rentrer un très gros texte. Si votre name il prend. Oups. Si vous avez marqué name là et le nom là, que c'est tout petit, c'est pas très pratique. Alors si vous avez juste marqué name là et le nom sur tout ça, ça peut être beaucoup plus pratique tout de suite. Et donc pour le split, il y a un petit paramètre qui s'appelle en anglais percentage. Et je vais lui dire que c'est. Alors c'est un pourcentage entre 0 et 1, pas vraiment un pourcentage. Si je lui dis que c'est le premier quart, donc 0,25. Je vais afficher quelque chose sur mon. Je vais l'appeler split. Split. Hop. Et si avant je mets layout, que j'exécute. Ah, j'ai rien mis à la suite. Oui, parce que dans ce cas-là, j'ai bel et bien créé un split qui coupe à 0,25, donc au quart d'un truc, mais j'ai rien mis derrière. C'est bien, ça fait un bouton tout collé, mais c'est pas très utile. Donc il faut que ce soit dans une. Oups. Que ce soit dans une ligne pour que j'y vois quelque chose. Donc on va dire que ma ligne c'est layout.ligne. Point ligne, pardon, point row, c'est en anglais. Et que mon split, il ne dépend pas du layout, mais de ma ligne. C'est-à-dire qu'il va couper ma ligne. Row. Et là, je vais le rajouter dans row. C'est-à-dire que le premier bouton, je vais le mettre dans mon split, et le reste, je vais le remettre dans mon row. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ? Name row, pas défini. Ah oui, je l'ai appelé ligne. Ah oui, niveau exception, est-ce que tout le monde voit un peu comment ça marche, les exceptions en Python, c'est-à-dire quand j'ai une erreur, ce qui m'affiche? Non? Bon, je vais l'expliquer un petit peu. Là, il me dit qu'il y a une erreur de nom. Bon, juste avant, ce qu'il nous dit, c'est dans quel fichier, à quelle ligne. Donc, c'était la ligne 18, où j'avais mis... d'ailleurs, c'est split ligne, c'est ligne, là. Voilà. Pardon. Et donc, il me disait que j'avais une erreur parce que le nom, donc la variable row, n'était pas définie. Et donc, comme ça, moi j'en montrerai quand il y en aura, notre exemple. Et là, mon problème, il a bien coupé à 0,25, mais ce qu'il a mis ensuite, ça ne colle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est particulier, le split, il faut découper après coup. C'est-à-dire que vous commencez à construire votre truc et après vous coupez votre ligne. Donc en fait, il faut le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que je vais couper là, ce sera ça qui correspond au split, et ça c'est ma ligne. Je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit une bêtise parce que j'ai fait exactement l'inverse. Le split, je le manipule pas très souvent, donc je fais tout le temps des bourdes. Personne ne le connaît, personne ne veut faire le truc à ma place, c'est bizarre là. Il n'y a plus personne. Non, je vais essayer de retrouver. Je crois qu'il faut remettre un split. Et ce coup-ci, il n'y avait rien. Excusez-moi, hein. Je me dépêche. Et si on ne met pas de pourcentage, je crois que ça marche. Ça ne marche pas. Bon. Bon, on ne va pas perdre de temps là-dessus. Je vous laisserai voir. Tout ça, c'est documenté en ligne. Hein. Si vous voulez le retrouver, dans ce qu'on appelle l'API Blender. Blender API. API, pas API. Donc l'API, c'est Application Interface en anglais, c'est-à-dire c'est le moyen d'interagir avec Blender qui est codé en C, en Python. Donc si vous savez ça, vous avez l'API de Blender, où il y a pas mal de tutos, d'exemples de base sur comment, enfin à quoi sert le contexte, comment faire un add-on, ce qui est je sais pas où, etc. etc. Et vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle donc le layout. Si je vais chercher layout, il y a tout un tas, donc panel.layout, c'est ça que je cherche. Hop. Quand je vais là-dedans, donc j'ai toutes les fonctions que je peux utiliser, dans row, row, column, split, voilà. Et vous avez la doc là-dessus qui vous explique comment ça marche, les paramètres qu'il y a, et ça vous permet de deviner, de découvrir des choses que vous ne connaissez pas, donc column, flow, par exemple, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça peut permettre de tester si vous voulez faire afficher des colonnes mais vous ne savez plus comment ça marche. Si vous allez là-dedans, ça s'appelle column. Et vous le retrouvez. Tout ça en tapant layout, je reviens derrière. Et c'est dans panel.layout. Donc ça vous sert dès que vous avez un doute sur quelque chose, vous tapez Blender API, vous allez le retrouver. Bon, on va laisser tomber le split. Et on va attaquer. Donc on ne veut plus notre panel ici. On va le vouloir dans les tabs. Ici. D'ailleurs, pourquoi il y est? J'ai fait une bêtise, moi. Je vais recharger le fichier, peut-être. Il ne devrait pas être là. Bon, on va l'effacer, ce truc-là. Et donc, pour les tabs, il faut aller modifier ce qu'il y a là. Donc, ça, on va le garder. On le modifie après. Dans l'espace, on ne va pas lui dire que c'est les properties, mais la vue 3D. Donc c'est, je vais tester parce que je sais jamais si c'est 3D view ou view 3D. Je crois que c'est vu, je vais vérifier. Bougez pas. C'est où? Oui, parce que j'oublie souvent ce qu'il y a dans l'API. Je suis obligé d'aller modifier, enfin d'aller vérifier les exemples. Est-ce que je le trouve? Ok, c'est Ok, c'est ça. Hop, on ne va pas le virer tout de suite. Ah mince, ça n'a pas copié. Finalement, on ne va pas finir en avance. Excusez-moi. Hop, 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 hop. C'est par là. C'est là. Hop là. Donc ça, on s'en fiche. Voilà. Donc c'est bien vu 3D. Tout ça, on va l'enlever. Et donc l'espace, c'est bien donc vu 3D. La région, ça va être les tools. Parce que tools, en fait, c'est cette barre-là, la toolbar. Et si je ne me trompe pas, ça c'est properties. Il y a header et window. Pour window, c'est la vue générale. Comme ici, on avait le header et la window. Pour ça qu'il avait marqué window. En majuscule. Et on va lui dire que la catégorie, puisqu'on est dans les tools, la catégorie c'est l'onglet. Ça va être pas tools, on va le changer. Donc on va enlever ça. Et on va lui dire qu'on va. Si je le mettais dans le tools, je vais élargir ça. Ça, qu'on y voit un petit peu mieux. Si on le mettait dans les tools, quand je l'exécute, pouf, bon, il n'y a rien dedans. C'est normal qu'il n'y ait rien affiché. Je vais juste afficher du texte. Point label. 8. Hop là. Donc tools, en fait, c'est cet onglet-là qui s'appelle tools. Si je vais aller dans create, je vais cacher ça. Je tape create. Sauf que moi, je le veux pas le mettre dans le tool, je veux pas le mettre dans create, je veux le mettre dans un nouveau. Que bon, j'ai déjà défini là, je sais pas pourquoi, j'ai dû faire une mauvaise manip. Je veux en créer un nouveau, bon, que je nomme rename, on va l'appeler renommé par exemple. Pouf, et il m'a créé un tab avec mon panneau. Et oui, c'est un peu particulier pour les tabs, c'est pas contexte, c'est catégorie. Ça, j'avoue qu'on ne peut pas le deviner. Il faut regarder des exemples, par exemple. Donc voilà, il m'a créé mon tab et j'ai mon panel dedans. Donc le deuxième truc à faire, c'est avoir notre opérateur de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va définir ça comme un opérateur pour avoir un bouton cliquable ici pour renommer nos objets. Donc pour ça, on a aussi un template de base qui s'appelle Operator. Il est là, simple. Je fais un peu de nettoyage, que ce soit clair. Hop. Et c'est bon. Donc, un opérateur, comment ça marche? Comme tout à l'heure, une classe qui dépend de bpi.types.operator, ce coup-ci. Qui hérite, pardon, pas qui dépend. Donc, un blidName, donc ce sera le nom avec lequel je l'appellerai. Donc là, ce sera, quand je voudrais l'appeler, ce sera bpi.ops. Et ce blidName, c'est-à-dire object.simpleOperator. Je vais pas le faire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La fonction qui est obligatoire, qui s'appelle execute, et qui prend deux paramètres, donc self et contexte, comme tout à l'heure. Donc l'instance et le contexte. Et qui doit retourner des valeurs qui sont codifiées par Blender. Ça marche comme ça, ça a été défini comme ça. Il va dire par exemple, quand il aura fini, que c'est terminé. Donc finished en anglais. Il peut retourner, non pas finished, mais hop, canceled, je ne sais plus s'il y a un ou deux Z, pour dire qu'il a annulé, c'est-à-dire qu'il n'a pas pu se lancer, etc., etc. Il y a un certain nombre de codes, et c'est Blender qui derrière va gérer ce qu'il faut faire. Donc ça, ce retourne finished est obligatoire. Tout le monde voit ce que c'est le retourne? Pour vérifier, c'est bon? Ok, parfait. Et là, on va avoir notre code qui va s'exécuter. Donc, notre code. Toujours les registers, etc. Le ifname est égal main, ça c'est toujours pour empêcher les problèmes à l'import. Et il y a une fonction pool qui n'est pas obligatoire, qui est quand même très utile, qui est ce qu'on appelle une méthode de classe. Bon, ça se définit de façon simple comme ça, avec ce qu'on appelle un décorateur. Je ne rentre pas dans les détails, on ne va pas avoir le temps. Mais où on va juste, on met cette fonction là, donc ce décorateur classe méthode. La fonction elle s'appelle pool, et il faut y mettre classe et non pas self et contexte. Et ce pool, en fait, il va vérifier si on peut exécuter notre opérateur. Par exemple, on ne peut pas renommer nos objets s'il n'y a pas d'objet. Ça va peut-être déclencher une erreur. On ne peut pas passer en mode édition sur un objet si notre objet ne supporte pas le mode édition. Des choses comme ça qui vont nous permettre d'éviter les erreurs ou d'exécuter notre code que dans un cas particulier. Elle n'est pas obligatoire, dans notre cas on n'en a pas besoin, donc je vais l'enlever. Et ce sera ça, notre opérateur. Donc on va le rajouter, non, on va modifier déjà avec notre code de base. Dans notre code c'est tout ça. Le import BPI je ne le prends pas parce qu'il est déjà, généré tout seul. Donc de base on va faire comme ça, je vais encoller tout ça, réindenter comme il faut. Et bien, ouais. Voilà. Et donc quand je vais l'exécuter, il va faire la même manip que tout à l'heure, il va renommer cube en boîte, etc. Donc je vais le faire pour vous montrer. Donc de base, il l'a appelé Simple Object Operator. C'est son label. Je vais le renommer mon opérateur, ou allez, renommer. Ce sera plus joli. Donc je réexécute. Et si là je tape renommer, dans la recherche, j'ai mon opérateur. Et si je le lance, qu'on voit bien, c'est déjà des boîtes. Mince. Donc des boîtes, cube, je le lance, renommé, ça n'a rien fait, c'est pas normal. Ça doit marcher, cube, bidule, on va juste vérifier qu'il marche. Printobj.name. Ah si ça marche, bon j'avais pas dû cliquer. Excusez-moi. Donc pouf, je vais remettre cube. Boîte. Donc toujours pour l'instant avec la recherche. Oups. Avec la recherche, je peux le lancer. Ce qu'on veut nous, c'est l'avoir dans notre panneau avec un petit bouton. Donc pour ça, on va récupérer donc ce code qu'on va remettre avec notre panneau. Donc à la suite par exemple. Donc ça, je remets notre opérateur qu'on va renommer object.renommer, pour faire simple. Et il ne faut pas oublier de l'enregistrer lui aussi. Donc je vais basiquement faire du copier-coller, c'est pas bien. Et donc je vais remettre la register et la nregister. Alors on va changer les noms. Non, on ne va pas les changer, on n'a pas le temps. Voilà. Donc là, si je le réexécute, bon, ça n'a rien changé. Ben oui, je ne l'ai pas rajouté là-dedans. Donc si là, j'enlève mon label et que je mets opérateur, opérateur. Et dans mon opérateur, je l'avais appelé object.renommé. Hop. Pourquoi object? Parce que dans les BPI. Je l'avais déjà. Dans les BPI.ops, il y a une catégorie qui s'appelle object. Vous pouvez très bien créer votre propre catégorie. En pratique, on essaie de rester un peu cohérent. Et consistant, c'est-à-dire le mettre dans object vu que ça s'applique à des objets, par exemple. Ça pourrait être des matériaux ou des textes, par exemple. Et là, pouf, j'ai mon bouton. Et donc, je fais une copie. Si j'exécute, ça marche. Bon, le truc, c'est qu'on voulait, hop, on voulait qu'on puisse choisir cube et boîte, par exemple. Donc nos noms source et nos noms nouveaux noms. Alors pour ça, il y a deux méthodes pour le faire. Je vais vous montrer la méthode générale qui va vous servir pour un peu tout, qui va nous permettre de voir les propriétés de Blender. Blender embarque, parce qu'on ne peut pas, entre deux scripts, se passer des variables. On ne peut pas le faire. On ne peut pas définir une variable globale. Ça ne marche pas, par sécurité, notamment. Et donc, Blender va nous proposer de le faire, mais de façon différente, en allant dans bpi.props. Hop. On a tout un tas de propriétés. Donc on a des booléens, on a des... Hop, pour faire simple, on a des booléens avec des vecteurs, des floats, des int, des strings, etc. Et donc, nous, ce qu'on va vouloir, c'est une string... Oups. Une string... Avec, bon, ça c'est toute l'aide, qui va nous permettre d'avoir bon, le nom et sa valeur, etc. Et ça tombe bien, ce qu'on veut se faire passer, c'est une string. Une chaîne de caractères avec un autre nom. Donc en fait, on va définir là-dedans une propriété qui s'appellera nom source, par exemple, et on va aller la modifier ici. Donc pour la définir, on va dire que on va le faire ici. que, alors c'est un peu spécial, il faut aller modifier la classe de base. On va dire que c'est la scène, vu que c'est une propriété qui est globale, parce que si je le faisais sur un objet, ce serait une propriété qui serait spécifique à cet objet. Sur un autre objet, ce ne serait pas la même. Dans ce cas-là, je veux qu'elle soit globale, donc je vais dire que c'est la scène. Donc je vais aller chercher ma classe qui est scène, qu'on trouve dans types, c'est toutes les classes par défaut. Et je vais dire qu'elle s'appelle non-source, pour faire simple. OK. Et là, je vais dire que c'est une bpi.props .stringProperty. Et donc la valeur, si je dis pas de bêtises, ça doit être name. C'est pas name. On va faire default, sa valeur par défaut. Hop. Non, je crois que c'est name. Je vais vérifier. Je vais essayer de pas vous dire de bêtises. Name. Si je tape A. Youpi. Name, ça doit marcher. On va essayer. Donc name égale, par défaut, on va dire que c'est. Non, la valeur de par défaut, pardon. Default égale cube. Donc quand je vais la créer, la valeur de base, ce sera cube. Et je vais en faire une nouvelle qui sera nouveau nom. Donc je vais copier cette ligne. Donc ce ne sera pas non source, mais nouveau nom. Et là, ce sera boîte. On va dire que ce sera les valeurs par défaut. OK, donc là, il ne va plus marcher avec non source égale cube, etc. Il va marcher en allant chercher la valeur de cette propriété. Qu'on va modifier ailleurs et que lui il va récupérer au moment de s'exécuter. C'est ça la bidouille pour avoir des variables globales. Et pour ça, donc on va lui dire que notre nom source qu'on utilise dans le code pour ne pas avoir à le modifier, ça va être. On va aller chercher cette propriété là. Et ça va être. Alors là, c'est plus la même. On va aller chercher dans bpi.context.scene et non pas .types parce que là, c'est la classe que j'ai modifiée. Et là, je vais aller chercher une instance, une des scènes. Donc la scène actuelle, puisque c'est les objets de la scène courante que je vais modifier, pas logique. Et le nom, c'est non source. Ok, je refais ça juste en dessous. Dites-moi hein, si je vais trop vite. Ok, donc là ça doit toujours marcher. Si j'exécute, ça marche. Youpi. Pourtant, je le remets. Pourtant je l'ai modifié là, ça utilise mes variables. Mes propriétés. Maintenant, je vais les afficher ici. Donc, je vais faire layout.prop. Donc, ce sera les propriétés de la scène, donc context.scène. Je précise un détail, j'écris que contexte et pas bpi.context parce que j'ai déjà l'argument ici, contexte. C'est juste un raccourci. J'aurais pu écrire bpi.context, c'est exactement la même chose, mais c'est plus long. Donc, ce sera la variable. Enfin, je vais chercher donc dans la propriété de ma scène qui s'appelle non source. Hop. Hop. Pareil, il y avait nouveau nom. Nom. Hop. Et si j'exécute ça, je vais juste sauvegarder. Si jamais. Stop. Hop là, je les ai là. Voilà, donc j'ai mon cube et mon boîte, et si je faisais la modification, ops, plus de place. Donc si je fais cube et boîte, ça s'exécute, ça marche. Et si je fais boîte et cube, ouais, vous voyez que ça va marcher aussi. Donc je vais remettre cube et boîte. Et il y a un truc qui m'embête un petit peu, c'est que là, c'est pas franchement joli d'avoir non source comme ça, deux points, etc. Je voudrais avoir quelque chose comme source et nouveau ou base et nouveau, quelque chose comme ça. Alors deux options. Là en fait il affiche le nom de ma propriété qui est définie. Bon par défaut quand il n'est pas défini, ça va être nom source et nouveau nom. Je peux aller là et lui dire que mon name égale nouveau. Hop, c'est nouveau. L'autre astuce, au moment de l'exécution, c'est d'aller lui dire que le texte qu'il utilise, c'est pas le même, c'est new. Celui que je définis moi. Donc les deux peuvent être utiles selon ce dont vous avez besoin. Mais on va par exemple utiliser les deux. Donc le new, on va le changer. Celui-là, on a déjà mis nouveau. Et pour celui-là, on va mettre ancien. Hop là. Et donc les deux méthodes marchent. Vous pouvez. Hop. on voit pas trop, ça va être compliqué. Donc mon nom de source où j'ai mis ancien à la place et l'autre c'était le nom de base. Donc voilà, oh, on va être court pour la suite. Je vais essayer de vous faire le petit bouton pour échanger les deux. Hop. Pour ça on va faire un nouvel opérateur qui en fait va simplement, je vais désactiver ça, inverser les deux valeurs. Donc pour ça, ben, on va créer un nouvel opérateur. Pour l'instant, j'ai toujours pas mis le nom, etc. Là, j'ai pas changé le nom de ma classe, c'est juste pour l'exemple. Donc celui-là, on va enlever tout ça. On va enlever tout ça. Et là, une petite manip spécifique à Python, ou peut-être à d'autres langages, je ne me souviens pas. C'est que quand on a une variable qui s'appelle a qui vaut 4, enfin 4, je vais changer, qui vaut hello, et b qui vaut 4, et que vous voulez les inverser, soit vous faites basiquement ce qu'on fait, c égale la valeur de a, vous changez a, vous mettez b à la place, et pour b vous remettez c. La manip avec une troisième variable, tout le monde voit de quoi je parle? C'est bon? Ok. En Python, vous pouvez tricher pour lui dire que a, ça va être égal à b, et que b va être égal à a. C'est une petite manip très, très pratique, où il va faire ça, donc a égale b, puis b égale a, mais il va lui-même stocker la troisième variable. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le faire à la main, il va le faire tout seul. Et là, si je retape a et b, ça a bien été inversé. Mon a vaut, d'ailleurs, ah oui, non, c'est celui-là. Donc hello, c'est b maintenant, et a, c'est 4. Donc c'est ce qu'on va faire, pour faire simple. Donc on va lui dire que on aura nom source, on aura nouveau nom. C'est lisible, oui. Et alors là, je ne les ai pas inversés, c'est toujours nom source égale nom source et nouveau nom égale nouveau nom. Je vais les inverser, on va faire comme ça. Oups. Si j'enlève tout ça, ça va pas le faire. Ok, donc là, pour mon nom source, il faut bien compter que le premier, ça va être la première valeur, le deuxième, la deuxième valeur, etc. Et non pas celui du bout, celui du bout, ce qui serait un peu compliqué. Donc là, j'inverse bien, donc le nom source, ça va être nouveau nom. D'ailleurs, je me suis trompé, puisque je ne vais pas inverser mon nom source là-dedans qui ne sert à rien, mais bien ma propriété. Donc ça va bien être context.scene.bidule, et pareil ici, .bidule. Donc je change la valeur de context.scene.nonSource par celle de nouveau nom et inversement. Et celui-là, on va le nommer autrement parce que sinon il va avoir un conflit, c'est deux fois les mêmes. Donc, d'ailleurs c'est même les mêmes noms ici, donc il va m'effacer celui d'avant. On va lui donner juste deux là, pour faire simple, il faut l'enregistrer et les enregistrer. Surtout pas oublier, parce que sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il ne va pas vous sortir d'erreur. Sauf quand vous allez essayer de l'appeler, mais vous n'allez pas y arriver. Et donc, renommer, on va dire, on va l'appeler échanger. 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 Un petit détail pour le BLIDName. Faut pas qu'il y ait de point là derrière. Parce que le point, ça correspond à api.ops.object. Et le point, il va chercher ce qu'il y a derrière. C'est pas un nom, je peux mettre un point dedans. Parce que c'est comme si j'allais chercher une instance, etc. etc. Et donc je l'ai appelé comme ça, super. Et ben, je vais l'afficher ici. Et donc c'est échanger. Hop, j'ai mon bouton échanger. Sauf que comme ça, c'est pas très joli. Moi ce que je voudrais, c'est l'exemple que j'avais. Je l'ai mis où? Ici. Avec une petite flèche, avec un petit symbole comme ça, qui me fasse comprendre que je vais changer les deux. Ce qui est un peu plus agréable qu'un gros bouton qui prend de la place, qui n'est pas forcément plus clair. Donc pour ça, on va déjà lui dire qu'il n'y a pas de texte à la main, comme ça, lui dire qu'il n'y a pas de texte. Bon, pour l'instant, il fait toujours un bouton. Et on va aller lui dire qu'il y a une icône particulière. Et l'astuce pour les icônes, ça peut être n'importe quelle icône de l'interface. Et il y a un petit add-on fourni de base qui s'appelle icons, quelque chose comme ça. Voilà. Qui va dans le petit menu qui est là, de recherche, enfin où il y a des options, recherche, etc. C'est pas T, comme dans la vue 3D, c'est CTRL T, parce que si vous tapez T, ça écrit. Vous avez quelques options, table space, etc. Des options pour afficher votre ligne, bon, pas toutes les voir, rechercher, remplacer, etc. Et là, vous avez la liste de toutes les icônes de Blender. Et quand vous cliquez dessus, il vous affiche le nom de l'icône. Il l'affiche là et il l'affiche dans la console, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et voire même si vous laissez votre souris dessus. Ah, je ne peux pas vous le montrer. Vous avez le nom de l'icône. Donc là, je veux arrow left right. Si je ne me trompe pas, il l'a copié. Voilà. C'est prêt pour la copie déjà. Donc je vais juste le rajouter dans l'icône. On va enlever ça. Quand j'exécute, j'ai ma petite flèche. Et comme je n'ai pas mis de texte ici, si j'avais mis du texte, il m'aurait mis l'icône et le texte. Si je ne mets pas de texte, il n'affiche que l'icône. Maintenant, je vais la coller à côté de l'autre. Et bien, je vais faire ce que je faisais tout à l'heure avec les colonnes. Oui ? Tu fais CTRL-T. Et après, il faut activer l'addon pour avoir les icônes. De base, tu l'as pas, ça. L'addon s'appelle icônes. Pas très compliqué à retrouver. Il a une fonction de recherche, etc. Ok. Et donc, je vais faire une colonne... non, pas une colonne, une ligne. Où je vais mettre les deux côte à côte. Donc, même manip que tout à l'heure. Ligne égale layout.row. Et là, je vais dire que c'est ligne. Et là, que c'est ligne. Hop là. Autre truc que je voudrais faire, c'est, pour pas avoir cet espace-là, peut-être que ce soit plus joli, bon, selon le besoin, je voudrais les coller. Et il y a une option quand on crée une ligne, une colonne ou autre, il y a une option qui s'appelle Align, et on peut lui dire que, par défaut, c'est faux, et on peut lui dire que c'est vrai. Quand je lui mets ça, pouf, il les colle. Donc un exemple, quand je vais dans les coordonnées de mon objet, par exemple, ça, c'est des colonnes, c'est sur une ligne, ils ont mis plusieurs colonnes, et tout ça c'est collé, et on aurait même pu coller tous les paramètres ensemble. Donc c'est très pratique pour dire que ces trois-là, ils sont liés. Plutôt qu'avoir une grille de paramètres côte à côte, j'ai pas d'exemple sous la main, c'est plus lisible, et puis ça peut servir pour gagner de la place. Ok, et donc quand je fais ça, ça échange. Et donc je peux m'amuser, cube à boîte, et de boîte à cube. Bon, il nous reste peut-être une ou deux minutes pour les questions. Okay. On n'aura pas fait autant que je voulais, au final. C'était pas assez bon. Non, c'est moi qui déconne. Parce qu'après, ça c'était un exemple d'un petit pour manipuler opérateur, panel, etc. Mais on peut s'amuser à faire tout et n'importe quoi. Par exemple, dans les opérateurs, il y a ce qu'on appelle les opérateurs modaux. Exemple, quand je bouge un objet, ça c'est un opérateur dimodal. C'est-à-dire qu'il vous permet, si je lance un opérateur de base et qu'il fait des manips, pendant qu'il fait des manips, je peux rien faire. J'attends. Et si jamais vous faites une boucle infinie, ceux qui ont déjà programmé connaissent ça, si vous faites une boucle infinie, ben, vous plantez votre Blender parce qu'il va tourner à l'infini. Si vous faites une manip et que vous voulez voir un cube qui bouge, ben, vous n'allez pas avoir l'affichage qui se rafraîchit. Vous allez juste voir le cube à l'affichage au bout et non pas le voir faire par exemple des petits incréments. Pour ça, c'est un opérateur dimodal et on peut faire tout et n'importe quoi. Donc avec j'ai bougé, on peut... Ouh, j'ai un poule qui... Ah oui, marche pas en plein écran. On peut faire ce genre de choses. Avec un simple opérateur, là je l'ai mis sur un raccourci, je peux couper ma vue 3D. Et la refusionner, etc. Il y a plein d'autres applications. Et je vous conseille d'aller... pour vous entraîner un petit peu et regarder un peu les possibilités, vous avez plein de templates qui peuvent vous montrer plein de choses différentes. Non, notamment, je n'ai pas parlé des drivers, on en parlait tout à l'heure pour le rigging. Il y a un code de base qui est un peu trop complexe à mon goût pour montrer, mais bon, qui vous permet de définir un driver. Je vais le simplifier pour vous expliquer que c'est pas très compliqué. Un driver, c'est quoi? C'est un petit code, importe le BPI, c'est là. On peut le faire sans code si on va dans le. Mais je préfère le code. Ça va beaucoup plus vite souvent. Pratique, si on va là-dedans et qu'on va dans le panneau driver et que je rajoute un driver sur n'importe quoi, driver, hop, on peut aller définir notre driver ici, date, parce qu'il ne va pas, bon bref, et on peut lui dire définir des variables et taper une expression, qu'elle soit Python ou juste mathématique, et aller définir des variables comme la couleur de notre objet, la position, etc. Ça se fait aussi en Python, et donc notre driver c'est juste une fonction qui va prendre éventuellement des variables en entrée, ou pas, qui va faire quelque chose, et qui va retourner une valeur. Et la valeur, ça va être par exemple, je bouge un objet et je veux que l'autre bouge en fonction de cette position. On va lui retourner la position ou un calcul à partir de ça. Et on va juste leur enregistrer, bon le code est un peu spécial, l'enregistrer dans les drivers de Blender, sous un nom, slowValue. Quand je vais utiliser slowValue, hop, slowValue, il va faire, je vais dire que c'est value, value au carré. Quand je vais lui mettre ça, que je lui mets 5 par exemple, il est censé me renvoyer 25, il ne le fait pas, on s'en fiche. En gros, il va, quand je vais le taper, je vais taper dire, excusez-moi, ce sera plus lisible, je vais taper ma fonction directement, le nom de mon driver, et bon, éventuellement des variables dedans, et lui il va me renvoyer, ah ça n'a pas marché parce que par défaut c'est pas activé. Donc c'est pas grave, et il va modifier mon objet. Et ce que je montrais hier pendant la conférence, pour ceux qui étaient là, c'est que, bah, un exemple très basique, bah, l'exemple de Julien pendant ta conf d'hier avec la vis, on peut faire pareil avec un driver, où quand je bouge mon objet, ah, j'ai encore oublié, quand je bouge mon objet, sur les Y, ça n'a pas marché, il faut que je le relance, hop, il tourne. Exemple basique, mais ça peut être bien pratique. Si j'ouvre celui-là, Trusted Source, 8, je lance mon anime, j'avais l'effet de loop que je montrais hier, c'est juste des cubes dont je change la taille, je ne sais pas si c'est très visible pour vous, des cubes dont je change la taille en fonction de la distance à partir de mon cercle. Bon, ça fait un petit effet de loop, mais ça peut servir à, si vous avez un moteur, il y a telle pièce qui tourne, il y a telle autre qui va la suivre, avec des engrenages, un engrenage qui tourne, l'autre qui va tourner deux fois moins vite, avec un driver, c'est fait automatiquement. Et bon, soit vous le définissez par là, soit vous le faites en Python, par là, ici, ouais, soit en Python, et ça peut rester très très basique, comme beaucoup plus compliqué si vous faites un driver un peu costaud, oups, pas Firefox, non, etc, etc. Bon, ça va être l'heure, est-ce qu'il y a des questions? Bon, c'est bien, tout le monde a dormi, il n'y a pas de questions. Ouhou. Pas de questions? Bon. Bah, merci à tous d'être venus. Et désolé encore pour les petits cafouillages. Donc, si jamais il y en a qui n'auraient pas suivi ou pas réussi une manip pour le code pour renommer. Mais non, mais François, toi, on s'en fiche. Non, c'est... Oui, c'est vrai, c'est toi qui l'as demandé, oui. C'est pour ça, alors, je veux pas que tu apprennes à le faire, sinon t'as plus besoin de moi. S'il y en a qui n'ont pas trop suivi, j'avais fait cet exemple-là sur un podcast du Blender Lounge, il y a un mois et demi. Bon, faut avoir un peu la foi, c'est un podcast de 3 heures. Qui explique un peu pourquoi coder en Python et quelques trucs, qui va pas aussi loin que l'exemple d'aujourd'hui, Python podcast, mais qui est pas mal parce qu'il part un peu plus du début, où j'explique ce que c'est une fonction, etc. Si vous voulez réviser. Voilà, un podcast qu'on avait fait sur le Blender Lounge, et donc faut avoir un peu la foi. 3 heures. Avec, je précise, 1h15 de blabla au début. Voilà, bon, encore une fois merci.